Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Nous avions parlé jusque à ce point-là. Donc c'est vrai que le jour dont il est question, c'est le jour de la manifestation de l'épouse qui doit être enlevée. Et donc ce jour s'approche. On peut dire ce jour s'approche. Donc d'autant plus que nous voyons s'approcher, il dit exhortons-nous réciproquement. Et cela, donc, d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Et alors, nous passons ensuite au sujet suivant, la mise en garde sérieuse qu'il nous met ici au verset 26, car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Eh bien, dans le verset précédent, il a bien dit, d'autant plus que vous voyez s'approcher du jour, parce que le jour, pour le croyant, le jour qu'on voit s'approcher pour le croyant, c'est un jour de délivrance, mais c'est un jour de jugement pour l'incrédule, c'est un jour où le Seigneur va faire tomber son feu, c'est ce qu'il dit ici. Si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il n'y a plus de sacrifice, mais l'attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. On pouvait se demander, je ne sais pas si vous vous êtes demandé, quand on parlait du feu, de l'enfer et de tout ça, on se demandait, est-ce que c'est biblique ou c'est pas biblique? Parce qu'il y en a qui vont se dire, mais non, le feu de l'enfer, le feu n'existe pas. Ici, c'est écrit qu'il y a un feu qui va dévorer les rebelles. J'avais noté ici une phrase que j'aimerais quand même vous lire. Il est bien dit péché après avoir reçu la connaissance de la vérité et la preuve de l'incrédulité, et sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Il n'y a plus que l'attente du jugement, de son exécution envers les rebelles à la parole de grâce et de salut par le sacrifice de Jésus. Vous voyez, c'est ce que j'avais noté ici, c'est vrai. Si nous péchons volontairement après avoir su la connaissance de la vérité, mais Dieu parlait du temps de la fin, parce qu'il ne va pas, il n'a pas, comment dire, il ne va pas enlever les croyants sans leur avoir fait connaître d'abord la vérité. Et Dieu a envoyé un prophète, précisément, pour nous faire connaître la vérité. Il y avait comme prophète, il y avait des interprétations, il y avait des credos, il y avait, oui, les pensées des hommes qui étaient mises en avant, ce que ça pouvait être, mais Dieu, eh bien, il a envoyé un prophète pour nous montrer que la parole, c'était la parole, et qu'il n'y avait pas besoin d'interprétation, mais que ce que Dieu disait, eh bien, si il dit qu'il nous a rachetés et purifiés et acquis au prix du sang de Jésus-Christ, c'est que nous appartenons à celui qui nous a acquis, à celui qui a payé le prix. Nous ne n'appartenons plus au diable, nous n'appartenons plus à nous-mêmes, nous n'appartenons pas à une église, à une religion, à un credo. Non, nous appartenons à une personne. Donc il fallait que cette vérité, parce que c'est la vérité, Jésus a dit, venez à moi. Il n'a pas dit, venez à mon enseignement, il n'a même pas dit ça. On peut dire, oh ben, il voulait dire, venez à mon enseignement. Non, il a dit, venez à moi. C'est sûr que, comme il est un enseignant, je veux dire que, il veut nous faire connaître la vérité, eh bien, il va nous parler, il va nous instruire. Donc là, c'est pour ça qu'il dit, mais si nous pochons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, La vérité, c'est Jésus. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il faut donc qu'on connaisse celui qui est le chemin, parce qu'il faut qu'on avance, et il faut qu'on connaisse la vérité, et il faut qu'on ait la vie pour mettre en pratique la vérité. Et déjà, pour pouvoir marcher sur le chemin, il faut qu'on ait la vie. Et Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, ce sont des... La révélation de Jésus-Christ, c'était essentiel. C'était essentiel qu'il y ait la révélation de Jésus-Christ, puisque c'est lui. Ça veut dire que on a besoin d'être conduit, parce que même en, la connaissance qu'on pourrait acquérir n'est pas suffisante. La plus grande connaissance qu'on aurait est insuffisante pour nous garder dans le chemin, pour nous donner la vérité et la pratique de la vérité. On ne pourrait pas pratiquer la vérité. Mais maintenant, par la révélation de Jésus-Christ, au temps de la fin, il n'y a qu'à la fin que Dieu pouvait de nouveau révéler Jésus-Christ. Parce que, en fait, avant que l'Église de la Nouvelle Alliance puisse commencer, il fallait qu'il y ait la révélation de la personne qui allait nous introduire dans la Nouvelle Alliance. Ou plutôt la révélation de la personne avec laquelle l'Alliance devait être conclue. Pour Moïse, il a donné la loi. Et la première alliance était une alliance avec la loi. Mais la connaissance de la loi, toutes les plus fidèles à la connaissance de la loi, ils ont jamais été changés. Le péché qui était dans le cœur n'a pas été enlevé. Une vie nouvelle n'a pas été donnée. Ils étaient comme les autres hommes, ils étaient religieux, c'est tout, ils avaient une forme de piété, mais ils étaient toujours des pauvres pécheurs. Tandis que la Nouvelle Alliance, quand ils ont ses premiers disciples, les 120, parce que même là, il y avait 500 qui ont connu Jésus ressuscité, ils ont vu, ils ont connu Jésus ressuscité, mais le jour de Pentecôte, c'est 10 jours après. Un jour, vous me demandez justement, est-ce qu'il était enlevé le 40e jour ou le 50e jour? Mais maintenant, tout d'un coup, je pense, mais il était le 40e jour, il était enlevé, et c'est 10 jours après que le Saint-Esprit est descendu sur les disciples. Donc, il a fallu encore 10 jours après avoir connu, avoir vu Jésus. Ils étaient 500 en ce temps-là, au moins, qui l'ont vu ressusciter. Mais après 10 jours d'attente, il n'y avait plus que 120. Il n'y avait plus que 120 qui l'attendaient, qui attendaient la suite. Ils pensaient qu'ils avaient tout, plus besoin. Donc, c'est la nature humaine. Mais, donc, au temps de la fin, le Seigneur a voulu donner. Il nous a donné encore du temps après nous avoir fait connaître la vérité. Il a voulu que nous soyons éprouvés pour voir si on va mettre en pratique, si on va chercher celui qui aurait dû être révélé. C'est vrai que le diable a tout fait pour que ce soit une parole qui soit révélée. Non, la révélation. Pour eux, la révélation, ce sont les messages de frère Branham. Pour d'autres, c'est encore en plus, ce sont ceux de frère Frank. Pour d'autres, c'est peut-être encore d'autres prédicateurs qui ont encore, ils ont conduit un peu plus en avant. Mais la vraie révélation, c'est pas, puisque la loi, c'est la parole. Il n'y a pas, la loi, c'est une parole, mais c'est pas la parole faite chair. Ce qu'ils avaient besoin, est-ce que pour la Nouvelle Alliance, il fallait que le Seigneur Jésus-Christ vienne lui-même habiter en eux par le Saint-Esprit, c'était la révélation de Christ en nous. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Donc il faut bien que nous aussi, on revienne à cette révélation de Jésus-Christ. Et je pense que c'est l'étape dans laquelle on se trouve. On avait besoin d'être enseigné, d'avoir la lettre, mais la lettre n'était pas suffisante. Il fallait que ce que Dieu avait promis, la postérité de quoi? De l'intelligence humaine. Mais pourquoi est-ce qu'il y a dit de la femme? Qu'est-ce qu'elle a à faire là-dedans, la femme? Est-ce que c'est elle qui va nous enseigner? Parce que même là, il y en a qui ne comprennent pas. Mais non. La femme, c'est elle qui devait mettre au monde le Fils de Dieu. La postérité de la femme, donc le Seigneur avait dit, la postérité de la femme, c'est elle qui va écraser la tête du serpent. Il faut qu'on arrive à cette vérité. Hein? Malheureusement, il y en a qui sont arrêtés à la connaissance des paroles de Frère Branham, ou les paroles de Frère Franck, ou les paroles d'autres prédicateurs. S'arrêter. Mais c'est pas là qu'il faut s'arrêter, il faut aller jusqu'à la connaissance de la parole faite chair venant habiter en nous par le Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce qu'on est, nous? Est-ce qu'on est arrivé? On n'est pas encore arrivé. Donc, on a encore du travail. Hein? On a encore à prier, à rechercher la communion du Seigneur, à méditer, à lire, à vraiment, vraiment, à le trouver. Il faut qu'on puisse le trouver, ou plutôt que lui puisse trouver notre cœur pour y pénétrer. Donc, c'est là, mais si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, donc je pense que là, attention, plus on va de l'avant, quand vraiment la connaissance du véritable, la connaissance de la personne de la vérité qui est Jésus-Christ. Si on a connu vraiment Jésus-Christ et qu'on l'abandonne, à ce moment-là, je pense que c'est là qu'il n'y a plus de possibilités. Je pense. Mais quand même, avec la connaissance qu'on a, on a quand même une grande responsabilité. Mais enfin, c'est écrit ici, vous voyez une parole. Si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, volontairement, c'est-à-dire sachant que c'est pas juste, parce qu'on a connu la vérité, on a connu ce qui est juste, mais on continue à vivre comme quelqu'un qui ne connaît rien. Un pécheur, mais c'est un pécheur, il est pécheur parce qu'il ne sait pas faire autre chose. Il n'a pas d'autre possibilité. Donc c'est tellement important que le Seigneur Jésus-Christ puisse révéler à nous individuellement dans notre vie, afin que notre cœur, nos pensées, notre comportement, notre idéal, notre raison d'être, que ce soit lui, que ce soit la personne de Dieu révélée en Jésus-Christ. Parce qu'en fin de compte, Jésus, bien, c'est Dieu. C'est notre Père. Alors, on est revenu à la maison. Si on est revenu à notre Père, on est revenu à la maison. Et si vous ressortez de la maison, pour retourner dans le monde, c'est fini. À ce moment-là, c'est fini. Mais c'est important, une parole importante. Si nous péchons volontairement, après avoir su la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Le sacrifice, qui c'est celui qui ôte le péché. Et s'il a été ôté, une fois que vous avez vraiment connu la grâce, la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ, vous avez, on peut dire que vous avez tout avalé, je veux dire, vous avez tout reçu ce que Dieu pouvait donner, vous avez tout pris, vous aviez besoin de tout le sang qui a été versé. Alors, il ne reste plus. Enfin, c'est écrit comme cela. Il ne reste plus que une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Donc, une attente terrible du jugement. Quelqu'un qui a connu et qui s'est retiré volontairement pour faire le contraire de la volonté de Dieu, eh ben, il sait qu'il est jugé, il s'attend à être frappé, il s'attend. Il n'est pas heureux, il ne peut pas être heureux. Celui qui reçoit la révélation du pardon, de la purification, pas par ses efforts, mais parce que c'est le sang de Jésus-Christ, parce que c'est la mort de Jésus-Christ qui le sauve. Il sait que tout est là, tout est là. Il sait. Il ne va pas chercher dans une religion. Celui qui cherche encore, qui est partagé, il cherche ici, il cherche là. Il n'a pas encore la révélation de la vérité. Mais la vérité, c'est qu'en Christ, tout ce qui devait être fait a été fait. Le combat a eu lieu, le sang a été versé, le prix a été payé, l'ennemi a été vaincu, la mort a été vaincue, le vieil homme, il a été. C'est lui qui est mort. Jésus est ressorti, libre. Libre, pouvant se manifester librement. Et il veut se manifester librement au milieu de son corps. Donc c'est important, pour cela c'est important. Une autre chose, j'aimerais quand même voir là, dans les nombres, parce qu'il parle, en somme, il dit qu'il y a une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Et puis après, il dit, celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de deux ou de trois témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne? Celui qui aura foulé au pied. Ça, on va revenir tout à l'heure. Mais là, c'est la loi de Moïse qui est violée. Eh bien, c'est sans miséricorde que sur la déposition de deux ou de trois témoins qu'il était frappé. Et on peut lire dans Nombres, dans les livres des Nombres, livre des Nombres, c'est combien? Chapitre 15. Verset 30. Mais si quelqu'un, indigène ou étranger, agit la main levée, ça c'est une expression de la Bible, ouvertement, en connaissance, la main levée. Mais déjà, sa main levée, c'est déjà un signe qu'il est contraire à la volonté de Dieu. Par fierté. Ouais. Ben oui, c'est aussi une image. Ouais. Mais il le fait ouvertement. Hein. Et si quelqu'un agit la main levée, il outrage l'Éternel. Celui-là sera retranché du milieu de son peuple. Il a méprisé la parole de l'Éternel, il a violé son commandement, celui-là sera retranché, il portera la peine de son iniquité. Ça veut dire que si quelqu'un, il était entré, il était dans le corps de Christ, et puis il agit par rébellion, oui, par orgueil, par méchanceté, par l'esprit du diable, c'est vrai, mais il agit contre, vraiment, il agit librement, il a eu la connaissance de la vérité, il sait ce qui est bien et aussi ce qui est mal. Donc il sera retranché du milieu du peuple, ça veut dire retranché de la communion, de la communauté, retranché du corps de Christ. Il a connu la vérité, il a connu le véritable, il a marché un peu avec lui, et puis bon, il s'élève contre lui. Il y a encore un passage qu'on peut lire dans les Hébreux au chapitre 6, là. Hébreux 6, verset 4. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, maintenant ils donnent ces qualificatifs. Un qui était une fois éclairé, donc, il a vu clair. Il n'est pas resté dans les ténèbres, il n'était pas dans le trouble. Il a goûté même le don céleste, le pain de vie, le pain descendu du ciel, c'est le don céleste. Je suis le pain, vos pères. Jésus a dit, vos pères n'ont pas mangé le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain qui est descendu du ciel. Et le pain, Jésus lui dit dans le même chapitre, leur dit dans le même chapitre, vous devez manger ma chair, et vous devez boire mon sang. Et là, il dit, c'est des personnes qui ont mangé à sa chair et qui ont bu à son sang. C'est la deuxième chose qu'il dit ici. Premièrement, éclairé. Ensuite, ils ont goûté le don céleste, ils ont eu part au Saint-Esprit, ils ont eu une effusion du Saint-Esprit, ils ont eu une pleine manifestation de l'Esprit, ils ont participé à la vie de l'Esprit, et qui ont goûté la bonne parole de Dieu, goûté les paroles de Dieu, les bonnes paroles de Dieu qu'ils ont vues, qui ont apprécié les paroles de Dieu, et puis aussi qui ont goûté aux puissances du siècle à venir. Ce sont ces personnes-là qui vont être condamnées. C'est contre cela que le Seigneur a dit cette parole. Verset 6, et qui sont tombés, donc il est impossible, ce que j'ai éclairé, qu'il soit encore renouvelé et amené à la repentance. Parce que sans la repentance, on peut pas être, on n'a pas l'expiation. Si on ne se repent pas, on peut invoquer le sang tant que vous voulez. Mais il n'y a pas de repentance. Il faut d'abord la repentance. Alors, quand il y a la repentance, le Seigneur peut révéler la valeur du sacrifice de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ. Mais il dit bien, ils ne peuvent pas être amenés à la repentance puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Vous avez remarqué? Ils crucifient le Fils de Dieu. Il s'agit de la parole faite chair. C'est le péché extrême. Pour quelqu'un qui a connu, pour les autres, Jésus peut leur dire, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Quand Jésus dit, ils ne savent pas, c'est que c'est vraiment, ils ne savent pas. Mais là, c'est des gens qui savent. Ils ont été éclairés. Qu'est-ce qu'on a lu? Il a été une fois éclairé, ils ont goûté le don céleste, ils ont eu part au Saint-Esprit, ils ont goûté la bonne parole de Dieu, ils ont aussi goûté aux puissances du siècle à venir. Et puis ils sont tombés. Il est donc impossible qu'ils soient renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Impossible qu'ils soient... J'ai vu le mot impossible. Hein. Au début du verset 4. Il est impossible. Qu'est-ce qu'il a d'arbi? Comment? La même chose. Oui. Mais, il est impossible, mais il faudrait, il faut qu'il soit amené à la repentance. Il faut qu'il soit amené, qu'il puisse réaliser qu'ils ont péché pour qu'ils puissent être purifiés. Il faut d'abord venir à la repentance. Et si vous ne pouvez même pas venir à la repentance, comment est-ce que le sang de Jésus, comment est-ce que le sacrifice va opérer? Donc, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Oui. Ensuite, il dit, lorsqu'une terre abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée, qui est prêt d'être maudit, qui ont fini par y mettre le feu. Pourquoi est-ce qu'elle produit des charbons et des épines? Il faut qu'elle soit labourée. Il faut qu'elle soit nettoyée d'abord des ronces et des épines, sinon elle va toujours... Bon, peut-être que les épines et les ronces, elles vont, si la sécheresse, on dit qu'elles vont crever, mais elles ne vont pas crever. À peine la pluie vient, c'est pour ça qu'il dit, mais quand la pluie vient, lorsqu'une terre abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, hein, il s'agit, si elle ne produit pas de l'herbe utile, c'est qu'elle n'a pas été consacrée. Et en terrain, vous devez décider que vous voulez le cultiver à telle et telle chose, et puis il faut le labourer, il faut le préparer, il faut l'ensemencer. Donc elle n'a pas été ensemencée. Si elle n'a pas été ensemencée, c'est les épines, c'est les ronces qui vont sortir. À quoi sert de réclamer la pluie, de la première et de l'arrière-saison, et puis on ne met pas la parole? On laboure pas le terrain, on libère pas le terrain pour y semer la parole. Mais forcément, si on n'a rien touché, la nature humaine, elle produira les ronces et les épines. C'est ce que le diable, il a mis. C'est la semence du diable. Donc, lorsqu'une terre abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. La terre participe à la bénédiction, elle est bénie. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et prête d'être maudite. Et on finit par y mettre le feu. Voilà, vous retrouvez le feu. Il y a le feu. Dans les religions, on dit, mais non, mais il n'y a pas le feu éternel. Il y a un feu. Et puis si vous êtes mis dedans, mais vous êtes brûlé. Et alors, qui c'est qui va disparaître? Le feu ou bien si c'est vous qui allez disparaître? C'est nous qu'on va être consumés. Vous pouvez bien dire, oh, il n'y a pas de feu, il n'y a pas de jugement, il n'y a plus de jugement. Mais il est dit que si vous êtes tombé d'une position que vous avez eue, vous avez connu la vérité, c'est ce qu'on a lu. Vous avez connu la vérité, et voilà. Vous êtes retombé dans le mensonge. Il n'y a plus de repentance possible. Encore, il va préciser une chose. Hein. Au verset 8, il a dit, si elle produit des épines, des gens les réprouvés, est prêt d'être maudite. Et on finit par y mettre le feu. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorable au salut, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Voyez, même là, il n'a pas dit pour sa parole. Mais le nom de la parole faite chair, c'est lui qui va rester. Nom de Jésus. Dans le besoin, on crie Jésus. On crie à Jésus, c'est le nom de Jésus, tout non. Mais vous voyez, il dit, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail, tout le travail, tout l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Voilà les qualifications encore qui sont manifestées. Premièrement, il y a un travail, Dieu n'oublie pas, il n'est pas injuste pour tout votre travail et pour l'amour, c'est aussi un comportement d'amour pour Dieu, pour Jésus-Christ, pour l'œuvre de Jésus-Christ, pour son royaume. Et vous avez montré pour son nom, pour que son nom soit glorifié. Et nous avons cette possibilité maintenant, puisque nous savons que ce n'est pas une religion qui peut sauver. Le nom d'une religion ne peut pas sauver quelqu'un. Quand vous êtes dans le besoin, vous pouvez dire, je suis catholique, je suis catholique. Qu'est-ce que ça peut changer? Ou, j'ai le message, j'ai le message. Qu'est-ce que ça peut changer? Mais c'est vrai. Puis tous les noms que vous voulez, tous les noms de religion que vous voulez, ça ne va pas vous sauver. Rendu et rendant encore des services aux saints, donc c'est ceux qui ont été mis à part, ceux qui ont cru et qui ont besoin de votre soutien. Eh bien, Dieu n'oublie pas, c'est ce qu'il a dit ici. Ne n'oublie pas, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendu encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Pour avoir une pleine espérance, il faut conserver le zèle. Zèle pour cette personne, pour Jésus. Et alors, si j'ai le zèle pour la personne, j'aurai le zèle pour faire ce qui lui est agréable. C'est-à-dire, comme il a parlé, alors je prends garde à ce qu'il a parlé. Et si j'ai fauté, je reviens, je dis, je reconnais que j'ai agi contre sa parole, et je lui demande pardon, et je suis pardonné. Donc nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. C'est ce qu'on a vu. Hein? C'est ce qui nous a été apporté. Ce que Dieu demande de nous, il y a le zèle, et puis que nous ne nous relâchions point, et qu'on imite ceux qui, par la foi, et la persévérance, nous les découvrons dans la parole de Dieu. Ceux qui, par la foi et la persévérance, ont hérité des promesses. Évidemment, le premier exemple, c'est Abraham. La foi et la persévérance dans sa foi en Dieu. Quand même, il a dû faire tout un chemin pour trouver le pays. Et puis quand Dieu lui dit, ben, continue de parcourir le pays, en long et en large, il a continué. Il a continué de marcher. Vraiment, Abraham, il est quand même, comment il faut dire, un exemple de première importance. Amen. On est appelé d'ailleurs enfant d'Abraham. Les croyants sont les enfants d'Abraham. Ce ne sont pas les enfants d'une certaine église. Les enfants d'Abraham. Donc, en sorte que vous ne vous relâchiez point, je vais m'arrêter. Mais c'est l'exhortation que vous ne vous relâchiez point. Donc, il a d'abord dit, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle. Donc, il faut montrer le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Donc, on peut voir dans la Bible, on a toute la possibilité de découvrir soi-même dans la Bible les exemples dont parle le Seigneur. J'avais un papier ici, est-ce qu'il est tombé? Ça n'a pas d'importance. Je le retrouverai quelque part. Ah oui, il est tombé, c'est juste. Merci. Eh bien voilà, nous allons incliner nos têtes et puis nous demander le secours encore au Seigneur pour qu'on puisse persévérer, d'autant plus qu'on est déjà arrivé jusque-là. On n'est pas encore arrivé à la fin, mais on a quand même le privilège d'être encore dans la foi et de tenir, bon, même si on nous abandonne. C'est l'important un peu. Ça n'a pas d'importance qu'on nous abandonne. L'important, c'est que nous, on n'abandonne pas le Seigneur. Hein? Mais d'accord. Tant pis pour ce que les autres peuvent faire. C'est manquer de ne plus vouloir être avec nous. Mais l'important, c'est que nous ne puissions pas abandonner le Seigneur. Donc on va prier pour qu'il nous secoue.